L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali Braham. Avec lui, nous allons analyser certaines recommandations du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu du 29 février au 2 mars 2023 à Alger. Nous nous pencherons également sur l'efficience des énergies renouvelables en Afrique, notamment l'hydrogène vert, appelé à remplacer les hydrocarbures. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 2 mars 2024 s'est achevé à Alger le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz, FPEG. Les participants ont mis l'accent sur plusieurs points fondamentaux concernant la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux croissants en assurant un accès universel à l'énergie abordable, fiable et durable. Ainsi, ils ont noté le rôle fondamental du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et son importance dans la réalisation de transitions énergétiques justes, équitables, ordonnées et inclusives. Les chefs d'État des pays membres du FPEG ont rejeté toute utilisation du changement climatique comme justification pour mettre en œuvre des mesures entravant les investissements dans les projets de gaz naturel. Ils ont plaidé en faveur d'une utilisation plus large du gaz naturel, notamment en tant que mesure stratégique pour lutter contre la pauvreté énergétique. Il ne se passe pas un jour où les alarmes mondiales ne sonnent plus fort au sujet du changement climatique qui menacerait la planète. En effet, l'énergie, électricité, chauffage, refroidissement et transport est le principal contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre à hauteur de 73%. Pour les pays africains, la question n'est pas de savoir comment réduire leur empreinte carbone, car la contribution globale du continent aux émissions mondiales est à moins de 4%. Les Africains doivent plutôt examiner comment le continent peut exploiter durablement ses ressources existantes et sortir leurs citoyens de la pauvreté. En ce moment, plusieurs pays d'Afrique se tournent vers l'hydrogène vert comme technologie potentielle. L'objectif est de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et d'accélérer l'accès à l'électricité pour des millions d'Africains. Or, pour être considéré comme de l'hydrogène vert, l'électricité nécessaire à sa production doit provenir en grande partie des sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, éolienne et géothermique. La vision de l'hydrogène vert s'accompagne de nombreuses réserves pour les pays africains, l'évidence étant la viabilité économique. En effet, il faudrait d'abord disposer de financements pour développer le vaste potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable et pour tirer parti éventuellement de sa dotation en minéraux nécessaires à la fabrication de piles à combustible. De plus, une fois produit, l'hydrogène, vert ou non, est instable et inflammable à température et pression ambiante. Ainsi, les pays africains ont-ils vraiment intérêt à se lancer dans ce genre d'aventure de technologie très peu mûre qui nécessite des investissements énormes dont ils ne disposent pas? Alors, pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur l'économie et la sécurité dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali Braham. Alors, actualité oblige, Monsieur Ferhat Aitali, les chefs d'État du Forum des pays exportateurs de gaz ont réitéré leur condamnation de toutes les restrictions économiques unilatérales entreprises sans l'approbation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute application extraterritoriale des lois et règlements nationaux contre les pays membres de ce forum qui impactent négativement le développement et le commerce du gaz naturel et compromettent la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Alors, ma question, il est clair que cette déclaration concerne les sanctions anti-russes et leurs effets boomerang sur l'économie mondiale. Alors, qu'en pensez-vous? Et est-ce que la solidarité des pays membres avec la Russie aura-t-elle un impact sur l'évolution du marché gazier mondial?
Déjà, pour commencer, ce genre de sanctions en dehors du domaine de la production de gaz, bon, tout le monde sait que c'était destiné plus ou moins à gêner l'économie russe en plein conflit avec les puissances occidentales. Mais dans les faits, appliquer des sanctions unilatérales en vertu d'une législation interne à un pays donné contre d'autres pays qui soient membres de ce forum ou non, que ce soit à propos de l'industrie gazière ou de toute autre activité économique, est en soi-même illégal en vertu du droit international et immoral. Et puis ça ouvre la porte à beaucoup d'excès qui ne sont pas toujours unilatéraux. C'est un petit peu une inauguration de la loi de la jungle en matière économique, en matière de relations internationales. Mmh. Donc la solidarité du groupe des pays exportateurs de gaz avec un exportateur de gaz qui est lui-même membre du forum coulait de source. Mais la logique aurait voulu que dès le départ, déjà en 2022, ça soit l'intégralité de ce qu'on appelle la communauté internationale, à l'exclusion, bien sûr, des pays qui sont inscrits dans cette aventure, soit solidaire avec la Russie. Premièrement, parce qu'elle est dans son droit le plus absolu. Et deuxièmement, parce que ça ouvre des portes pour des pays autrement plus faibles que la Russie en matière économique, en matière stratégique aussi, pour subir éventuellement ce genre de méfaits à l'avenir. Donc la solidarité affichée à Alger à l'occasion de ce forum avec la Russie, je trouve que c'était la moindre des choses, un coup de source
okay.
pour tous les membres
Il y a aussi la question de l'application extraterritoriale des lois et réglementations nationales. Là, ça concerne évidemment le droit, l'extraterritorialité du droit américain, notamment en ce qui concerne les transactions financières par le dollar. Et ça, il faut bien le dire que ça ne pénalise pas uniquement la Russie ou les pays du Sud, mais même les pays européens. Nous l'avons vu plusieurs fois.
Mais il trouve que bon, les pays européens, moi je les écarte toujours de ce genre de remarques parce qu'eux-mêmes appliquent l'extraterritorialité en matière pénale pour des faits supposés être criminels accomplis dans d'autres pays par d'autres parties contre d'autres parties maintenant, même des pratiquement. Des petits tribunaux de banlieue en Europe peuvent s'improviser juges et de manière unilatérale. Donc cette histoire d'extension du droit national vers des affaires qui ne relèvent pas de la souveraineté nationale des États, elle date quand même de plus de 20 ans. Et j'aurais préféré qu'elle soit relevée depuis le temps déjà.
D'accord.
Il ne fallait pas laisser des précédents s'accomplir avec d'autres pays à l'occasion d'autres conflits. Maintenant, bon, ça a connu son apogée justement avec cette extension du droit américain où même un petit tribunal texan peut s'autosaisir d'une affaire qui se déroule en Thaïlande ou je ne sais pas où. Ça s'est appliqué quand même à une puissance mondiale. Mmh. Donc c'est toutes les relations, c'est toute l'architecture des relations mondiales qui doit être revue au plan juridique. L'idéal serait que tout le monde se remettre une bonne fois pour toutes d'accord pour qualifier ce qui est criminel et qui ne l'est pas, ce qui est délictuel et qui ne l'est pas, et ce qui est valable pour tout le monde aussi. Hein. Il ne faudrait pas quand même perdre deux
fois. Que ce soit une justice à géométrie variable.
Voilà, et à partir d'accord. de là, peut-être éventuellement, revoir la Cour de justice internationale, étendre ses compétences, mais avec des critères bien définis. Pour que tout s'applique de manière uniforme à toutes les parties, y compris pour ce qu'elles estiment relever de leur souveraineté nationale.
D'accord.
Il est vrai que certains États, qualifiés à tort ou à raison d'États voyous, par les Occidentaux, parfois se comportent même en interne de manière peu orthodoxe. Mais ce n'est pas à une justice de n'importe quel pays au monde de juger de ce qui est orthodoxe ou ne l'est pas en matière de droit de la guerre ou en matière de droit de l'homme ou en toute autre matière d'ailleurs. Donc cette histoire de droit applicable de manière unilatérale et en extraterritorialité est à revoir dans son ensemble, pas uniquement au plan économique ou en focalisant sur le problème occidental ou russe.
D'accord.
Ça ouvre peut-être une porte justement à la révision de tout ça.
Bien. Alors maintenant, passons à ce qui vraiment concernait le forum en lui-même, et en particulier les questions de l'énergie, le gaz en tant qu'énergie, mais en même temps ce qui est promu, parce que la déclaration fait plusieurs fois référence au plan des Nations Unies concernant le changement climatique et la nécessité de promouvoir des énergies vertes renouvelables. Bien. Alors, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Glasgow, c'est la COP26, avait annoncé 8,5 milliards de dollars pour soutenir un partenariat pour une transition énergétique juste de l'Afrique du Sud. Donc, la question visait à développer de nouvelles opportunités économiques telles que l'hydrogène vert, c'est ce qui est écrit dans la déclaration. Alors, en février 2022, l'Afrique du Sud a annoncé un plan donc de construction d'un pipeline d'hydrogène vert d'une valeur d'environ 17,8 milliards, ce qui n'est même pas une petite bagatelle, de dollars au cours de la prochaine décennie. Et de même, le Kenya, le Maroc et le Nigeria sont à différents stades de l'élaboration de plans visant à intégrer l'hydrogène vert dans leur mix énergétique. L'Algérie, dernièrement, donc quant à elle, a annoncé un plan d'investissement de 25 milliards de dollars dans les années à venir sur les questions de l'hydrogène vert. Alors, Farhat Aitali, vous qui êtes économiste et qui êtes ancien ministre de l'Industrie, partant du fait que beaucoup de pays occidentaux ont décidé d'investir massivement dans la production de l'hydrogène vert, les médias mainstream parlent d'une course mondiale pour développer cette ressource, et tout en soulignant que pour la première fois, l'Afrique est sur la ligne de départ avec les pays développés. Alors, qu'en pensez-vous et êtes-vous d'accord avec cette analyse ?
Ben franchement, en tant que ministre de l'Industrie, ex-ministre de l'Industrie, en tant qu'opérateur économique et en tant que financier, moi j'ai toujours tendance à étudier les dossiers dans le plus petit détail. Les annonces politiques et les décisions empiriques ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier l'intégralité des détails d'un dossier. Maintenant, on va commencer par les énergies existantes, les énergies possibles, dont le gaz est un élément clé et qui est le moins polluant, du moins par rapport au reste des énergies possibles. Maintenant, les quantités de gaz existants en réserve prouvée et les capacités de production des pays connus comme étant des producteurs et des exportateurs, si on les additionne tous, y compris les États-Unis d'Amérique, qui sont passés de consommateurs nets à exportateurs aussi, on peut tourner dans les 2500 milliards de mètres cubes, pratiquement de 1500 milliards de mètres cubes de production globale. Et cette production globale, elle peut être soutenue quand même sur les 50 prochaines années si on additionne toutes les ressources. Donc, si on doit faire une transition, à la limite, le gaz méthane, ce qu'on appelle le gaz naturel actuellement, devrait quand même suffire à temporiser sur ces fameuses alternatives dites vertes.
Oui, oui.
Absolument. Donc, les quantités existantes permettent quand même de prendre du recul par rapport à cette alternative. Les capacités de production et d'exportation de tous les pays réunis aussi permettent de soutenir une transition progressive du charbon et du pétrole vers le gaz, du moins pour ce qui est des installations statiques. Parce que tout le problème qui se pose, c'est que pour les installations mobiles, pour les avions, pour les bateaux, enfin pour le reste, tout ce qui peut être mobile, là, ça pose un sacré problème. Et il faut que
le pétrole
a de l'avenir devant lui. Mm-hmm. Mais maintenant, je ne comprends pas cette frénésie pour le fameux hydrogène dit vert. de la part de l'Europe, mais surtout que quand on analyse un petit peu leurs comptes et leurs investissements, c'est beaucoup plus des projections que des investissements effectifs. Mmh. Alors que là, ils invitent les pays africains à se mettre à investir.
Investir, oui.
Si ce n'est pas par un investissement direct, mais par, ne serait-ce que par un endettement. Mais pas à investir eux-mêmes. Mmh. Parce que si les Européens ont aussi besoin que ça de ce fameux hydrogène vert, ma logique aurait voulu qu'ils mettent la main à la poche. Ils mettent le paquet. Maintenant, si certains pays africains peuvent offrir des conditions climatiques favorables à la production d'électricité elle-même nécessaire à ce fameux hydrogène vert, ces pays africains disposent d'une ressource naturelle qui se trouve partout, mais qui se trouverait peut-être être beaucoup plus disponible chez eux, en l'occurrence le soleil. Et pour certains pays comme la Mauritanie, ou je dirais peut-être les côtes ouest marocaines, d'éolien, de vent. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait aux Africains d'investir dans une formule qui n'est pas encore très sûre en Europe. La preuve qu'elle n'est pas encore très sûre, les investissements projetés sur les 20 prochaines années en Europe, qui sont de l'ordre de 300 milliards d'euros, ne sont pas réellement décidés.
Absolument.
Donc maintenant, si l'Europe doit produire l'équivalent à peu près de 80 millions de tonnes d'hydrogène vert, et elle sollicite les Africains pour éventuellement produire la moitié, je ne vois pas pourquoi cette fameuse moitié africaine ne serait pas intégralement financée par ce fameux client final qui est l'Europe.
D'accord.
Il se trouve d'ailleurs que les États-Unis d'Amérique, qui sont de très gros consommateurs de toutes sortes d'énergie, c'est pratiquement 20% de la consommation mondiale, n'ont pas vraiment mis le paquet sur cette histoire d'hydrogène vert. Mmh. Curieusement, les Américains ne sont pas vraiment en pole position dans cette histoire-là. On ne voit pas d'investissement massif, on ne voit pas vraiment un basculement vers l'hydrogène, qu'il soit vert ou bleu, même à partir du gaz. Ils ne produisent pas vraiment beaucoup d'hydrogène vert. Ils ne mettent pas le paquet sur les énergies alternatives. Ce qu'ils ont investi les 10 dernières années dans l'extraction du gaz et du pétrole de schiste dépasse de 10 fois ce qu'ils ont mis dans les énergies alternatives. Mm-hmm. C'est quand même curieux que
Absolument.
Pour une énergie d'avenir, la puissance la plus consommatrice du monde ne soit pas tellement intéressée.
D'accord.
Ce qui me pose à moi un sacré problème.
Pas uniquement à vous, d'ailleurs, c'est l'objet de cette émission. Alors, Farhat Aitali, l'utilisation de l'hydrogène, comme vous venez de l'évoquer justement, comme carburant, n'est pas un concept nouveau. Et il est actuellement largement utilisé d'ailleurs dans différentes applications telles que le carburant pour les voitures, le raffinage du pétrole, le traitement des métaux, la production d'engrais et la transformation des aliments. Alors, l'hydrogène, c'est connu, il libère une quantité importante d'énergie lorsqu'il est utilisé comme carburant. Alors, presque 3 fois plus que ce que l'on peut obtenir avec du diesel ou de l'essence. Et l'hydrogène aussi est produit en séparant l'eau par électrolyse. Un processus qui utilise de l'électricité. Un fluide, donc il s'agit d'un fluide conducteur et un catalyseur métallique, généralement du platine, ouais, dans une pile à combustible. Alors, ce qui est important ici, c'est que pour être considéré comme de l'hydrogène vert, l'électricité nécessaire à sa production doit provenir, donc selon les promoteurs de ce miracle, en grande partie de sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire, éolienne et géothermique. Alors ma question, Farhat Aitali, selon vous, cette option est-elle économiquement viable, notamment pour les pays africains, et d'autant plus qu'on sait que les appareils d'électrolyse sont extrêmement chers, et puis les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Je parle du solaire et éolien.
C'est ce caractère intermittent des énergies renouvelables qui a poussé justement à utiliser l'hydrogène comme une source de stockage, oui, oui, de transition. Donc, quand vous produisez de l'électricité à grande échelle, quand il y a une forte production, quand il y a du soleil ou quand il y a beaucoup de vent, vous atteignez des pics de production qui parfois ne sont pas utilisés, mais il y a aussi des chutes de production qui posent problème justement pour avoir l'énergie nécessaire. Donc quelqu'un a pensé justement à utiliser de l'hydrogène comme une sorte de fluide de transition. Mmh. Disons, produire de l'hydrogène qui est censé stocker la fameuse électricité excédentaire. Seulement, il y a un problème physique dans cette histoire-là, c'est qu'il faut 57 kWh d'électricité produite pour 1 kg d'hydrogène. Et le 10 kg d'hydrogène, une fois réinjecté dans une pile à combustible pour reconstituer de l'eau, bien sûr, après qu'il ait rejoint l'atmosphère et que ce soit qu'il rejoigne aussi l'oxygène pour recréer de l'eau, dans cette fameuse pile à combustible, on ne sort que 13 kWh. Donc c'est un coefficient qui avoisine de 1 à 5. Ça veut dire que pour chaque kilowattheure consommé, vous ne récupérez que 20% en énergie finale. Donc, automatiquement, ce n'est pas rentable dans les faits. Il faut produire, par exemple, pour 1 million de tonnes, selon les prévisions algériennes, j'ai fait un petit calcul, il faut à peu près 14 gigawatts crête d'installation photovoltaïque qui tourne quand même à plein régime, hein, qui sont mmh. chute pour pouvoir produire ce fameux million. C'est quand même lourd, c'est très lourd. Parce que,
mais déjà donc, dans ce cas, la quantité des centrales, que ce soit solaires ou éoliennes, à placer c'est-à-dire se projeter dans un avenir où l'hydrogène vert va remplacer les hydrocarbures, ce n'est pas une seule ou deux centrales. Et ça, c'est énorme comme investissement.
C'est gigantesque. Pour produire 10 millions de tonnes en à l'horizon 2040, tel que c'est prévu ici, il faudrait peut-être installer l'équivalent de ce que nous avons actuellement comme parc conventionnel fonctionnant au gaz. Et ceci en tablant sur une consommation avec pratiquement des pics presque permanents. Et maintenant, si on divise la journée par deux pour le soleil et pour les vents, on se limite à 30% de l'année, eh ben, il va falloir multiplier le chiffre des centrales par deux. Et donc, je vois très, très mal quelqu'un mettre 40 ou 50 milliards de dollars à terme dans une énergie qui, le problème, c'est que non seulement elle va casser les cours du gaz parce qu'elle va venir en surplus par rapport au gaz existant qui est toujours disponible en quantité respectable. Donc, cet hydrogène vient dans 20 ans, les cours du gaz, ils vont être impactés par l'entrée de l'hydrogène, vert ou pas vert. Et il se trouve aussi que cet hydrogène lui-même, ses cours vont être impactés par la concurrence des autres énergies fossiles ou non fossiles. Automatiquement, on va se retrouver en train de casser une source d'énergie sans réellement pouvoir
la remplacer par
des revenus respectables avec l'autre source dite alternative. C'est pour ça que je me dis que si les Européens insistent pour une fois, pour rester dépendants de certains pays dont ils voulaient se débarrasser en termes d'énergie fossile. Pratiquement, je crois que pour les Occidentaux, la plus grande pollution dans les énergies fossiles, c'est le fournisseur lui-même. Mmh. Qui peut leur imposer un chantage, parce qu'ils sont terrorisés avec l'idée de subir un chantage énergétique, de devoir payer plus cher leur énergie, ce qui impacte leur croissance. Donc, quelqu'un qui se cherche une énergie alternative, forcément, il cherche deux alternatives. L'alternative qu'il prétend justement chercher à la pollution climatologique, en matière de CO2 et en matière aussi de pollution chimique en tout genre, mais aussi l'alternative qu'ils cherchent aux fournisseurs traditionnels qui posent un problème, qui ont leur propre vision du monde, leur propre politique, leur propre culture, qui ne sont pas toujours dans les bonnes grâces des Occidentaux. Donc je ne vois pas en quoi les Occidentaux pourrait éventuellement donner encore une deuxième chance sur une énergie alternative à des pays qui leur posent problème en matière d'énergie primaire conventionnelle. Mmh. Donc,
D'accord. Alors, et là, Farhat El-Tali, vous soulevez quand même une question importante. C'est quand vous dites que l'hydrogène vert est effectivement étant un vecteur énergétique, donc il agit comme une batterie qui permet de stocker l'énergie excédentaire créée par les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien pendant le cycle de pointe. C'est-à-dire, ce qui permet après de pallier à l'intermittence de ces énergies. Donc, il réduirait donc l'intermittence des énergies renouvelables qui ne peuvent pas produire de l'énergie à toutes les heures de la journée, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant et continu en électricité pour les réseaux. Alors, ma question ici, alors pourquoi dépenser de l'énergie pour produire de l'énergie et dont le rendement est faible? Et vaut-il vraiment la peine de consacrer une partie des ressources limitées dont l'Afrique dispose au développement de l'hydrogène vert comme solution viable au déficit énergétique du continent? Est-ce que tout ça est sérieux?
Pour l'Afrique, je ne pense pas que ça soit vraiment une piste sérieuse. Maintenant, la question que tout Africain devrait poser aux sollicitations occidentales en la matière pour pouvoir dormir tranquille et avoir la certitude sur cette option, c'est combien les Occidentaux qui viennent solliciter les pays africains pour cette alternative sont prêts à mettre sur la table. Mmh. Si ça ne dépasse pas les 70% du projet, ce n'est même pas la peine de discuter.
70% des financements.
Du projet.
Oui.
Des financements. S'ils veulent se garantir, si prétendument on les croit, quand ils disent qu'ils veulent se garantir une énergie propre, ils n'ont qu'à mettre la main à la poche. À la limite, on ne perd rien. Mais pas sous forme d'endettement. C'est pas une avance.
D'accord.
Ils devraient être les investisseurs primaires et les investisseurs principaux dans ce genre d'aventure, ce qu'ils n'ont pas osé tenter chez eux quand on voit les
Donc,
Allemands.
Mais justement, moi, les déclarations que j'ai vues...
En mer du Nord.
Les déclarations que j'ai vues, même un certain rapport que j'ai vu sur le site de l'ONU, pour eux, même les Africains doivent mettre, et puis bien comme il faut, la main à la poche. Et qu'il faut mettre en place les infrastructures, et ainsi de suite.
Les Africains sont toujours là pour mettre la main à la poche. Déjà, pour ceux qui ont encore des poches, hein, parce qu'il y en a qui en ont enlevé même des poches. Ce qui m'étonne, ce n'est pas de l'attitude des Occidentaux. Vous savez, moi j'ai discuté avec un ministre britannique qui m'avait fait une proposition qui me paraissait bizarre. Je lui avais dit, est-ce qu'il était sérieux en essayant de me faire gober cette proposition. Et il m'a dit, it's no cost to life. Il m'a dit, ça ne coûte rien d'essayer. Il ne m'a pas bougé. Mm-hmm. Mais le problème, c'est chez les Africains. C'est quand les Africains ils se pointent en disant, voilà, nous sommes invités à être à la pointe de la technologie et à être, c'est pour une fois, les vecteurs de la transition pathologique et énergétique. Mais en quoi un malheureux continent dont la pollution pratiquement additionnée ne représente pas 3 ou 4% de la pollution des États-Unis devrait être à la pointe de transition climatologique? En vertu de quoi?
Ouais.
Il nous faudra 50 ans d'industrialisation effrénée pour arriver à la moitié de ce que l'Europe produit comme gaz polluant.
Absolument.
Et donc, il faudrait quand même revoir tout ça sous cet angle-là. Moi, je ne comprends pas l'enthousiasme des hommes politiques en Afrique pour pratiquement avaler tout ce qui est proposé en Occident. D'ailleurs, ce qui m'a paru aussi curieux que frustrant, c'est que globalement, tous les projets que nous estimons être utiles à notre développement, ne sont jamais nos propositions. J'ai rarement vu des Africains trouver, avoir une trouvaille et aller la vendre ailleurs. C'est toujours l'inverse.
Ouais.
C'est toujours les trouvailles des autres qui trouvent preneurs et qui trouvent même des avocats et des défenseurs en Afrique. Et personne ne se pose de questions précises. Moi, je ne suis pas dogmatiquement contre toute innovation. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment un féru d'innovation. Mais pratiquement toute proposition mérite d'être étudiée par des professionnels, par des spécialistes, de vrais experts, et non pas des bricoleurs, et être étudiée en détail sous tous ses angles. Il y a aussi l'angle géopolitique. Parce que la dépendance entre l'Europe et l'Afrique, parce que l'Europe est la plus proche de l'Afrique, est une dépendance, je dirais, double. Autant ils dépendent un petit peu de nous en matière d'énergie, mais autant on dépend aussi d'eux. On n'est pas grand-chose dans ce continent. Et vous vous retrouvez en train de dépendre aussi de lignes d'approvisionnement qui sont l'une des principales, si ce n'est pas l'unique source de financement, parce que dans le futur, si on leur rajoute encore l'hydrogène, on attendra des recettes de l'hydrogène pour vivre. Mais si, pour un incident quelconque ou pour des problèmes d'ordre géopolitique, vous leur coupez le tuyau, et ben, déjà que pour des affaires qui ne les concernent pas, ils prennent des mesures unilatérales.
D'accord.
Je crois que l'Afrique devrait quand même commencer à utiliser déjà le gaz qu'elle a. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, Boumdine, il y a 50 ans de cela, avait initié un plan qui était censé transformer jusqu'au dernier mètre cube de gaz, au dernier baril de pétrole ici en Algérie, en produit semi-fini, en produit fini.
Absolument, c'est ça un vrai plan de décollage économique et industriel. Nous allons continuer la discussion dans la seconde partie. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Farhat Ait Ali Ibrahim, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Farhat Ait Ali Ibrahim. Farhat Ait Ali, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, Farhat Ait Ali, produire de l'hydrogène à partir de l'électricité pour le reconvertir en électricité peut apparaître un peu comme du bricolage. Et en effet, selon des spécialistes, stocker l'électricité intermittente sous forme d'hydrogène pour ensuite la transformer en électricité non intermittente, selon eux, ne restitue même pas 30% de ce qui avait été accumulé. Alors, qu'en pensez-vous ? Et puis, à ce taux, peut-on vraiment parler d'une source d'énergie alternative aux énergies fossiles?
Tout à l'heure, j'avais dit un coefficient de 1 à 5, parce que 57 kWh pour 13 kWh récupérés, ce n'est pas 30%. Ça, on n'est même pas à 20% là.
D'accord.
Le problème, c'est que ça n'a pas été conçu au départ comme étant une source alternative. C'était l'électricité verte qui était la source alternative, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Mmh. L'hydrogène a pris le relais comme une sorte de batterie liquide, qui peut être véhiculée sous forme liquide au lieu de mettre des batteries au lithium pour faire du tout électrique. À la limite, un réservoir qui prend 6 kilos d'hydrogène, mais quand on parle de 6 kilos d'hydrogène, c'est en volume, c'est beaucoup plus, hein. Parce que les 6 kilos d'hydrogène, il faut les comprimer. Et
il faut les liquéfier.
Dans cette fameuse compression, les réservoirs sont spéciaux, la compression se fait à des froids extrêmes, donc ça nécessite aussi d'autres consommations d'énergie pour faire descendre la température au point de faire de l'hydrogène liquide. Mmh. Et il y avait un procédé français qui était censé justement emprisonner l'hydrogène dans des galettes de manganèse. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais pour le moment, on parle de réservoirs d'hydrogène dans les voitures à hydrogène, donc qui prennent à peu près 6 kilos. En termes de prix actuellement, pour ce qui est des charges de production et des petites marges, un plein d'hydrogène pour la même autonomie qu'un plein d'essence, ils sont presque au même prix. Parce que l'hydrogène, il faut 6 kilos pour faire 500 kilomètres, pour une cylindrée moyenne, une petite berline citadine, ça paye des 10 à 12 euros le kilo. Donc, on est entre 60 et 72 euros le plein. Mmh. Ce qui est à peu près la même chose que pour une cinquantaine de litres d'essence. Donc, en termes de rapport, on se retrouve pratiquement au même prix. Et là, ils ne peuvent pas booster l'hydrogène avec ce prix-là. Il faut que cette alternative-là soit moins coûteuse.
Absolument.
Et le problème qui se pose aussi pour l'acheminement par gazoduc, je ne sais pas, parce que là, ce que j'entends parler de gazoduc transméditerranéen, transsaharien, quelque chose, transafricain, pour ce qui est d'hydrogène, ce n'est pas un gazoduc ordinaire, ce n'est pas un tube en galvanisé ou un truc en acier soudé. Les conduites d'hydrogène, l'hydrogène est un gaz extrêmement volatile.
Ouais.
Il a été utilisé dans le passé, mais pas pour en pile à combustible. Il a été utilisé pratiquement en combustible. Et il a été utilisé même pour gonfler des zeppelins. Il a été abandonné dans les dirigeables parce qu'il est hautement inflammable et hautement volatile. Il suffit d'une micro-fissure dans n'importe quelle soudure pour qu'il sorte cet hydrogène. Il est beaucoup plus volatile que le méthane. Donc les pipes servant à transporter de l'hydrogène, et pas sous sa forme gazeuse, parce qu'il est extrêmement dense. Il n'est pas dense, extrêmement léger. Donc, pour véhiculer, par exemple, un gazoduc qui véhicule, par exemple, 20 milliards de mètres cubes de gaz, 20 milliards de mètres cubes d'hydrogène, ça ne veut rien dire en termes énergétiques. Il faudrait qu'il véhicule 150 milliards pour pouvoir avoir les mêmes capacités énergétiques. Et donc, il faut le comprimer, ce gaz. Il ne passe pas à l'état gazeux dans le tuyau. C'est pour ça que les Sud-Africains parlent de 17 milliards pour le gazoduc. Maintenant, pour ce qui est d'électrolyse, l'électrolyseur n'est pas de la très haute technologie, ça existe depuis longtemps, l'électrolyseur pour l'hydrogène, pour séparer l'hydrogène d'oxygène. D'ailleurs, nous utilisons de l'oxygène médical, de l'oxygène pour l'industrie, la sidérurgie. C'est pratiquement le même matériel qui extrait l'oxygène, qui fait la même chose pour l'hydrogène en plus grosse quantité, parce qu'il y a plus de molécules. Mais le problème qui se pose, c'est que les quantités sont tellement énormes que les électrolyseurs sont tout aussi énormes, et les cubes de stockage ne sont pas des cubes ordinaires. Ce n'est pas à l'état gazeux, c'est à l'état liquéfié. Il faut quand même dans les moins de 100 degrés pour pouvoir...
Oui, oui. Et ça, là, justement, on m'amène à la deuxième question de cette partie, parce que on avance justement, l'hydrogène comme une énergie de substitution pour l'utiliser comme un combustible dans les voitures, dans les avions, voilà. C'est-à-dire pour empêcher que les énergies fossiles classiques soient utilisées. Alors, mais moi, j'ai vu quelques rapports, j'ai trouvé que... Alors, une voiture à hydrogène est une voiture électrique. Je rappelle qu'il fabrique sa propre électricité grâce à une pile à combustible utilisant de l'hydrogène. Alors, mais c'est qu'il y a des inconvénients qui s'imposent, dont le surcoût et le rendement global, et puis de la production d'hydrogène jusqu'à la roue, qui n'est que de 35%. Voilà ce que j'ai trouvé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Alors, par ailleurs, il est impossible d'embarquer l'hydrogène sur un avion à pression atmosphérique et température ambiante, c'est ce que vous venez d'expliquer, parce que l'hydrogène occupe un volume 8 fois plus important que le kérosène, s'il est comprimé, et près de 4 fois s'il est liquide. Voilà, s'il est liquide. Et donc, il faut rendre l'hydrogène liquide pour augmenter sa densité énergétique. Pour cela, porter sa température, et il faut porter sa température à moins 253 degrés Celsius. Là, c'est clair que, en tout état de cause, le volume d'hydrogène embarqué est tel qu'il faut reconstruire des avions de type nouveau.
Et puis, l'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius ne pourrait pas loger dans les ailes comme le kérosène. Et donc, les avions de forme classique devront être fortement allongés pour loger l'hydrogène dans le fuselage, à l'arrière de la cabine. Et puis, on a le remplissage des réservoirs d'hydrogène est une autre difficulté. Il faut d'abord liquéfier l'hydrogène, une opération coûteuse et énergivore, puis assurer son transport à l'état liquide jusqu'aux aéroports, ce qui n'est pas envisageable en wagon, en camion citerne, un camion citerne par exemple, de 38 tonnes, ne transporte que 4 tonnes d'hydrogène liquide. À partir de là, de ces faits, donc, n'est-il pas clair que les Africains n'ont rien à y gagner pour leur développement industriel, se condamnant à rester des exportateurs de matières premières, dont énergétiques? Parce que non seulement ils ne vont pas profiter de ça, mais si cette tendance est lancée, ils seront même obligés d'aller acheter de nouveaux avions, de nouvelles voitures, c'est-à-dire parce que c'est des technologies qu'ils ne pourront pas maîtriser. Donc, et l'énergie et l'industrie servira surtout le Nord développé qui va continuer à exporter en toute sécurité.
Vous savez, moi personnellement, je crois en les innovations technologiques et en la science. Donc, ce fameux stockage de l'hydrogène qui est actuellement, qui nécessite quand même du froid actuellement, comme pour le méthane en GNL, mais beaucoup plus de froid pour le maintenir à l'état liquide, pourrait éventuellement, avec des recherches, dans un
avenir
lointain, être stocké d'une autre manière. Hein. Mm-hmm. Le problème qui se pose pour les Africains, en quoi une énergie qui nécessite justement une forme d'énergie qui nécessite autant d'équipements et autant de transformateurs, parce qu'il faudrait quand même transformer
l'électrolyseur,
autant d'investissements pourrait être utile au continent pour l'exporter à l'état brut. Alors que réellement, ce n'est pas vraiment un gaz qu'on trouve à l'état brut dans la nature. Ce n'est pas comme le méthane, je ne fais pas de creuser, il faut que ça monte. Et il faut le sortir de l'eau. Donc automatiquement, c'est un processus industriel en fin de compte.
Oui, oui.
Et que les Européens maîtrisent mieux et qu'ils pourront faire chez eux. Cette histoire qui consiste à dire que le désert du Sahel ou enfin de l'Afrique du Nord, les déserts fournissent beaucoup plus d'énergie photovoltaïque, je crois que c'est une blague de mon vigo aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a une solarité, je dirais, il y a une exposition solaire de 3000 heures par an, qu'on devient automatiquement une sorte de four à produire d'électricité. À la limite, ça aurait été pour l'énergie thermique, l'électricité thermique avec des tours solaires. Je pourrais dire qu'on peut tabler sur la chaleur qui rayonne dans le désert, mais parler de photovoltaïque alors que tout le monde sait que les cellules photovoltaïques sont instables et produisent moins là où il fait très chaud. Que là où il fait moins chaud, c'est entre 22 et 26 degrés que ça produit le plus. Donc les Européens, ne serait-ce que pour l'Europe du Sud, ils ont quand même quelques hectares et quelques milliers d'hectares consacrés au photovoltaïque. Pourquoi diable ils vont venir ici pour s'implanter chez les autres et redevenir dépendants pour une énergie qu'ils peuvent produire chez eux? Donc si la formule avait été bien ficelée chez eux et qu'ils étaient prêts à y mettre le paquet, à investir leurs propres sous, je doute qu'ils soient venus en Afrique.
Absolument. D'autant plus qu'ils cherchent à être indépendants sur le plan énergétique.
Exactement. Alors, des gens qui cherchent en même temps à se retirer de la dépendance aux énergies conventionnelles qui sont disponibles et à un prix raisonnable vont replonger encore dans des énergies alternatives qu'ils peuvent produire chez eux dans une dépendance chez les mêmes parties. Vous trouvez ça logique ?
Absolument.
Et moi, pour moi, ça ne tient pas la route. Maintenant, s'ils mettent l'argent, à la limite, s'ils sont devenus fous, ce n'est pas mon problème. S'ils mettent l'argent, moi, quand quelqu'un me présente un projet qui me paraît suspect, le seul moyen d'avoir la conscience tranquille et de bien dormir, c'est de voir son degré d'engagement. Maintenant, si je ne sais pas pour une raison ou pour une autre, son degré d'engagement dépasse la fiabilité du projet, ça ne me dérange pas trop. Il met son argent, Le Sud est toujours là. De toute façon, le Sahara, il était là avant nous, il sera là après nous. Donc, s'il ramène leurs sous, moi, ça ne me dérange pas trop. Mais de là à vous demander de mettre la main à la poche, de mettre le paquet avec des investissements colossaux. J'ai fait un calcul personnel en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable et les électrolyseurs, plus les installations de stockage et les conduites d'acheminement, mm-hmm. on n'est pas loin de 80 milliards de dollars.
Pour 80 milliards de dollars
de tonnes.
Là, pour l'Algérie uniquement que vous avez calculé.
Uniquement.
L'Algérie uniquement.
Uniquement. Rien que pour l'installation électrique, il faut entre 14 et 22 gigas. Gigacrates d'installation mm-hmm. en photovoltaïque. À 2000 dollars.
Donc, c'est à 80 milliards, c'est un investissement à perte.
2 millions de dollars plutôt. À 2000 dollars de kilowatts crête.
Ouais.
Ah, faites un petit peu vos comptes. Déjà, on est pratiquement à 30 milliards, ne serait-ce que pour les installations. On ne compte pas la maintenance, la main-d'œuvre, le nettoyage, en fait, les infrastructures de base. Et là, on va passer aux électrolyseurs. Et les électrolyseurs, on va passer au stockage intermédiaire et après, on va passer à l'acheminement. Parce que si on parle d'insolation, il faut descendre un peu plus au sud. Et là, on remonte maintenant vers le nord pour essayer d'exporter ça par gazoduc.
La Commission européenne prévoit que d'ici 2030, c'est-à-dire à peu près le rapport que j'ai vu, moi, il date de 2022 ou 2020, je ne me rappelle pas bien, les investissements dans les électrolyseurs pourraient atteindre des sommes allant de 24 à 42 milliards d'euros. Et en outre, sur la même période, entre 220 et 340 milliards d'euros seraient nécessaires pour développer une capacité de production d'énergie solaire et éolienne de 80 à 120 gigawatts et la connecter directement aux électrolyseurs afin de leur fournir l'électricité nécessaire. Alors, moi, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, mais dans la situation économique actuelle de l'Europe, et partant du constat de l'efficacité limite ou l'inefficacité de l'hydrogène vert, peut-on vraiment prendre au sérieux ce genre d'annonce ?
De toute façon, la Commission européenne, ça fait un bon bout de temps qu'elle a cessé de faire dans le sérieux, y compris en géopolitique et en stratégie. Et d'ailleurs, au sein même de l'Union européenne, au sein même du Parlement européen, il y a beaucoup de contestataires pour ces politiques empiriques. Et tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire-là d'énergie verte. On a commencé déjà à parler des compagnies pétrolières occidentales. Mais il y a aussi des gens sérieux qui n'ont rien à voir avec le monde des énergies fossiles, qui ne croient pas trop à ce programme. Maintenant, parlons des fameux 300 milliards à mettre sur la table pour pouvoir...
340.
Ouais. Voilà, 340 milliards. C'est là que je me doute qu'une partie de ces 340 milliards soit à notre charge.
Exactement.
Soit transférée vers l'Afrique.
Parce qu'ils ne précisent pas la source. Ils ne disent pas d'où viendra cet argent. Ils ne parlent que de la somme à investir. Mais qui va investir, voilà. Ça, ce n'est pas précisé.
Et justement, quelqu'un qui est prêt à mettre 340 milliards dans une forme de d'énergie dite renouvelable, révolutionnaire, s'il est prêt à les mettre chez lui, je ne vois pas l'utilité pour lui d'aller chez les autres.
Absolument.
On ne met pas un tel montant sur la table pour aller dépendre d'autrui quand même.
Mm-hmm.
Et si on met ce montant sur la table pour aller dépendre d'autrui, c'est que cet autrui-là va mettre sa main à la poche. Et quand je vois leurs ministres qui vont un peu partout, de l'Atlantique presque au Golfe pour proposer la même solution, je trouve ça curieux quand même, non ? Parce qu'il y a comme une frénésie pour cette histoire d'hydrogène en Afrique. Et toute cette frénésie, elle est alimentée par des voyages pratiquement, je dirais, réguliers de ministres de l'énergie européens y compris d'ailleurs la commissaire à l'énergie à l'Union européenne qui passe son temps dans les avions à vendre cette formule. Et généralement, elles ne vendent pas que la formule, elles vendent aussi des équipements qui vont avec. Parce que les entreprises, enfin tout, la dernière fois qu'il y a eu une délégation qui est venue pour ici discuter d'hydrogène vert, et dans la délégation, il y avait aussi des hommes d'affaires, mais pas des investisseurs, des fournisseurs.
D'accord. Des fournisseurs d'équipements et de technologies.
Ils aiment gagner sur tous les tableaux et c'est leur droit le plus absolu. Moi, quand je les vois venir des métiers en Afrique, je vois des gens, c'est comme un petit peu les explorateurs du 19e siècle, là. Ils essaient de prendre le maximum en ne donnant rien du tout, si c'est possible, sinon le minimum. Moi, le problème ne se pose même pas avec les Européens, il se pose avec les Africains. Et ici qu'il faudrait éventuellement regarder de près toutes les propositions. Ce n'est pas pour les Européens, les 340 milliards. De toute façon, ils ne les ont pas débloqués. Et depuis 2022, normalement, sur 340 milliards, si on doit calculer 2022-2030, on devrait se retrouver quand même avec au moins un dixième de ce montant dépensé, non ? Mmh. Et ben, il est où le dixième qu'ils ont dépensé ? Ils n'ont strictement rien fait depuis 2022, à part essayer de draguer les Africains là-dessus.
D'accord. Alors, passons à la dernière question, Farhat Aitali. Je crois qu'elle est très importante parce que, à mon sens, c'est l'alternative, à mon sens. Et je parle sous votre contrôle. Alors, il y a l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, estime que l'hydrogène vert est une opportunité stratégique pour verdir la relance mondiale. Alors, moi, ma question... N'est-il pas immoral pour une institution internationale de dire ou de tenir ce discours quand elle sait pertinemment que seuls 35% des Africains sont connectés au réseau électrique ? Et IRENA voudrait produire de l'hydrogène à partir de leurs excès d'électricité. C'est-à-dire, l'ironie, justement, c'est ça. Alors, il y a 35% qui sont connectés à l'électricité, et elle veut produire de l'hydrogène avec les excès d'électricité. C'est une équation que je ne trouve pas comment on pourrait la résoudre. Et puis, j'aimerais vous demander, l'option nucléaire civile ne serait-elle pas justement la meilleure pour les Africains, surtout que des pays comme la Russie et la Chine sont prêts à les fournir. Prenons l'exemple de la centrale de l'Égypte. C'est la Russie qui finance pratiquement la plus grande somme. Je crois que c'est à 75% ou à 80% de la somme de la construction de cette centrale. La Russie met sur la table 25 milliards de dollars. Et c'est dans ce même type d'accord que s'engouffre aussi le Burkina Faso qui demande à la Russie, donc je crois qu'il y a même un même mémorandum d'entente sur ça, pour la construction d'une centrale nucléaire. Et dernièrement, le ministère des Affaires étrangères du Mali a aussi émis le vœu de coopérer avec la Russie dans le nucléaire, dont la construction, pas uniquement, c'est-à-dire lancer des écoles pour former des ingénieurs, mais commencer déjà en parallèle la construction d'une centrale nucléaire.
Mais à la limite, pour moi, une centrale nucléaire capable, par exemple, d'assumer les besoins énergétiques de 4 ou 5 pays devrait être suffisant pour des pays qui sont limitrophes et inscrits dans la même logique économique et éventuellement politique aussi, pour l'instant du moins. Mm-hmm. Parce que dans la région, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20 milliards de dollars dans une centrale massive, géante. Certains pays, le PIB ne dépasse pas les 4 milliards de dollars. Et la Russie ne peut pas aussi investir à perte. Aider, c'est bien beau, mais bon, quand c'est massif, il faudra être sûr de récupérer ces billes, ne serait-ce qu'à moyen long terme. Mm-hmm. Par contre, associer plusieurs pays qui ont des besoins, par exemple annuels, je ne sais pas, d'une dizaine de térawattheures, pour 4 ou 5 pays, ça devrait pouvoir se faire. Et moi, personnellement, je préfère l'énergie nucléaire. Donc, une partie de l'uranium se trouve d'ailleurs en Afrique.
Une bonne partie,
à l'état brut, mais bon, avec un enrichissement en Russie et un retour des barres radioactives directement injectées dans les centrales, ça pourrait se faire. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus économique. Et en oubliant bien sûr aussi cette histoire d'exporter les excédents en Europe. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a des excédents électriques, en énergie électrique.
moi, je vous le dis franchement, à chaque fois que j'entends que des pays, que l'Afrique, que ce soit les pays d'Afrique du Nord ou ailleurs, investir pour exporter vers j'ai les oreilles qui sifflent. Parce que je me pose tout le temps la question, mais est-ce que ces pays sont déjà industrialisés pour penser exporter l'énergie? L'énergie devrait être produite pour industrialiser les pays d'abord. Quand la Commission européenne parle de 340 milliards d'euros. Un EPR, c'est le réacteur, le dernier réacteur de troisième génération, le plus développé de la France, coûte 5 milliards.
Oui.
Alors, si l'on divise, hein, une simple division, on n'est pas loin de au moins de 70 réacteurs. 70 réacteurs EPR, hein. EPR avec lesquels on pourrait équiper toute l'Afrique.
Vous trouvez logique que de quoi faire justement 60 réacteurs en Europe, je ne dirais pas en Afrique.
En Europe. Oui, mais en Europe, il y a les Verts qui sont contre le nucléaire.
Oui, mais les Verts, ils devraient être verts de honte. Parce qu'ils ne proposent aucune solution alternative. Et leurs solutions sont vraiment des gadgets coûteux et sans avenir. Donc, pourquoi en France, d'ailleurs, les Verts, ils se sont tus. On les voit qu'en Allemagne et dans certains pays.
Et donc, même donc, l'Allemagne, c'est-à-dire le bilan énergétique de 2022 ou 2023, je ne me rappelle pas, 70% de l'électricité est d'origine charbon. Du charbon, 70%.
Alors, quelqu'un qui me dit que le nucléaire est polluant ou il est dangereux et qui préfère le charbon, c'est quelqu'un qui n'est pas si vert que ça. Mais il y a d'autres considérations aussi géostratégiques. Je pense aussi que les États-Unis d'Amérique ne voient pas d'un très bon œil une renucléarisation de l'Europe. Particulièrement de certains pays de l'Axe dans le passé. Personne n'est trop sûr de l'avenir par les temps qui courent. Donc, manifestement, ils préfèrent les pousser vers une dépendance énergétique aux fossiles ou bien ce genre de fausses pistes qui consiste en l'hydrogène et que de les laisser tourner autour du nucléaire. Maintenant, pour la fusion nucléaire, si ça réussit, c'est moins dangereux. Et ce n'est pas radioactif. La fusion nucléaire, c'est à base d'hydrogène, c'est un plasma. Donc, ce n'est pas à base d'uranium ou de cobalt. Le problème ne se pose même pas. Mais là, il faudrait quand même quelques décennies pour que ça donne des résultats. Les Chinois, ils ont réussi quand même à perdre 5 millions de degrés pendant 17 minutes. C'est beaucoup quand même. Mais bon, 17 minutes, ce n'est pas suffisant pour parler à l'échelle industrielle. Ouais. Mais je pense que ça va venir. En attendant, l'Afrique devrait réétudier cette fameuse option nucléaire et surtout oublier cette histoire de rente énergétique.
Absolument.
Se focaliser sur l'exportation de toutes sortes de produits, hein, que ce soit énergétiques ou minéraux, à l'état brut ou semi-transformés, vers l'Europe est déjà en soi-même une sorte de pollution économique. Ça empêche l'émergence de toute autre forme d'économie. Quelqu'un qui vous dit « Je vous prends vos surplus d'électricité alors que vous êtes en déficit par rapport à une économie
sous forme d'hydrogène vert. » D'autant plus sous forme d'hydrogène vert.
Et nous prenons l'Algérie et l'Égypte, par habitant, notre production d'électricité est pratiquement antérieure au cinquième de la consommation d'un pays moyen en Europe. Donc si nous devons réellement émerger en tant que puissance industrielle, il faudrait que nos capacités et notre consommation quintuplent en 30 ans. Pourquoi diable voulez-vous qu'on mette de l'argent pour pouvoir dégager quelques kilowattheures à exporter vers des puissances industrielles? Alors que nous, si nous tablons sur une croissance Non, hydrogène vert ou autre, hein, que ce soit sous forme d'électricité brute, par câble ou par hydrogène vert, cette formule-là ne tient pas la route.
Ok, ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Farhat Aitali, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique dans toutes ses facettes. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie Farhat Aitali Brahim. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.